monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du jeudi 11 avril 2024. Au Mali, la junte interdit aux médias de couvrir les partis politiques alors que l'ONU demande ce jeudi aux autorités de Bamako d'abroger immédiatement la suspension des activités des partis politiques.
Quoi qu'il en vienne, il est important et donc très très diligent de discuter de la durée de cette transition.
Tiambel Guimbaraya, directeur de publication du journal La Voix du Mali, nous dira dans la partie magazine sa lecture des décisions de Bamako. Au Niger, 6 soldats ont été tués par une bombe près du Mali. Ici aux États-Unis, O.J. Simpson est mort ce jeudi. L'ex-star du football américain acquitté lors du procès du siècle en 1995 est décédé d'un cancer. En Ukraine, le Parlement a voté aujourd'hui une loi controversée pour mobiliser plus d'hommes face aux assauts de la Russie qui a quant à elle effectué de nouveaux bombardements. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. On commence par l'actualité américaine. Les États-Unis, le Japon et les Philippines devraient annoncer aujourd'hui de nouveaux exercices navals conjoints avec l'Australie, semblables à ceux qui ont été menés il y a quelques jours dans la zone. La rencontre de Washington, toujours selon des sources américaines, accompagnée d'annonces de coopération économique, en particulier un grand projet d'infrastructure aux Philippines et de partenariat dans le domaine humanitaire. Joe Biden a entrepris de tisser un réseau serré d'alliances en Asie-Pacifique afin de faire face aux ambitions stratégiques de la Chine. L'ancienne superstar du football américain O.J. Simpson est mort d'un cancer et ce à l'âge de 76 ans, a annoncé aujourd'hui sa famille. Son procès pour double meurtre en 1995 avait captivé l'Amérique avant son acquittement. Jacques Aristide.
Le 10 avril, notre père, Randall James Simpson, a succombé des suites de son combat contre le cancer. Il était entouré de ses enfants et petits-enfants, indique la famille de celui qui fut considéré comme l'une des premières grandes vedettes de la communauté africaine-américaine. Ancien running back de la NFL, reconverti dans le cinéma, O.J. Simpson avait été déclaré non coupable du meurtre en 1995 de son ex-épouse Nicole Brown et de Ron Goldman, un ami de celle-ci, à Los Angeles lors du procès du siècle, surmédiatisé et extrêmement chargé sur le plan racial aux États-Unis. Les débats avaient captivé le pays et le verdict innocentant O.J. Simpson continue de provoquer la polémique près de 30 ans après. L'année d'avant, une course-poursuite à faible vitesse entre des dizaines de voitures de police et O.J. Simpson avait également fasciné les Américains. Il était en liberté conditionnelle depuis 2017, après avoir été condamné en 2008 à une peine de 9 à 33 ans de prison pour avoir dérobé des souvenirs sportifs avec 5 hommes de main dans un hôtel casino de Las Vegas sous la menace d'une arme.
Contrôle des armes, une vérification d'antécédents des acheteurs d'armes à feu sera bientôt requise dans davantage de situations, a annoncé aujourd'hui la Maison-Blanche, affirmant refermer des vides juridiques. Dans un pays qui déplore tant de tueries, l'administration du président Joe Biden pousse pour davantage de régulation et face au blocage régulier au Congrès pour des réformes d'ampleur, en revient donc à utiliser son pouvoir réglementaire. Le Parlement ukrainien vote une loi controversée pour mobiliser plus d'hommes. Après des mois de débats houleux, l'Ukraine, confrontée à de multiples attaques terrestres sur la ligne de front, souffre d'une pénurie de soldats volontaires. Davantage avec Alexandrine Olignon.
C'est fait. La loi sur la mobilisation est adoptée. 283 députés ont voté pour. S'est félicité sur Telegram le député Oleksiy Gocharenko. Le président de la Rada, le Parlement monocaméral, doit maintenant la remettre à Volodymyr Zelensky pour promulgation afin qu'elle entre en vigueur. Ce texte, qui accroît notamment les sanctions contre les réfractaires, a fait scandale en raison de la suppression à la dernière minute d'une clause prévoyant la démobilisation des soldats ayant servi 36 mois. Cette décision a donc immédiatement suscité la controverse, d'autant que le système d'enrôlement actuel est jugé par de nombreux Ukrainiens injuste, inefficace et souvent corrompu. Le chef de l'État ukrainien a en outre annoncé la signature d'un accord décennal avec la Lettonie qui inclut un soutien militaire annuel de ce pays à l'Ukraine à hauteur de 0,25% du PIB. Sur le terrain, La Russie a tiré dans la nuit d'hier à ce matin plus de 40 missiles et 40 drones contre des infrastructures énergétiques ukrainiennes.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a pris note ce jeudi de la promesse d'Israël d'ouvrir plus de points de passage pour l'aide humanitaire à Gaza, tout en appelant à faire plus pour permettre de répondre aux besoins de la population.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les autorités maliennes dominées par les militaires ont interdit ce jeudi aux médias toute publication sur les activités des partis politiques après avoir suspendu ces dernières la veille. Les précisions de John Lydon.
À la suite de la suspension des activités des partis politiques, la Haute Autorité de la Communication invite tous les médias, radio, télé, journaux écrits et en ligne à arrêter toute diffusion et publication des activités des partis politiques et des activités à caractère politique des associations, dit-elle dans un communiqué. La Haute Autorité de la Communication ne précise pas à quoi s'exposeraient les médias qui iraient à l'encontre de cette interdiction. Avant la décision de ce jeudi, la junte au pouvoir a décrété mercredi la suspension jusqu'à nouvel ordre des activités des partis et des associations à caractère politique, coupables selon elle de discussions stériles et de subversion. Il s'agit de nouvelles restrictions à toute expression d'opposition ou de dissidence de la part des colonels qui ont pris le pouvoir par la force en août 2020 en renversant un civil du pouvoir en la personne du président Ibrahim Boubacar Keïta.
Réaction de l'ONU, le Haut Commissariat aux droits de l'homme est monté au créneau ce jeudi pour demander au Mali d'abroger immédiatement la suspension des activités des partis politiques. Au Niger, 6 soldats ont été tués par une bombe dans la zone d'Inates, près du Mali. L'annonce a été faite ce jeudi par l'armée qui ajoute avoir neutralisé au moins une dizaine de terroristes dans des frappes aériennes des deux côtés de la frontière. Mohamed Oumfa.
Les 6 militaires sont morts en début de semaine lorsque leur véhicule de patrouille de retour d'Inates a sauté sur une mine artisanale près du village de Tingara, précise le ministère nigérien de la Défense dans son dernier bulletin. D'autres soldats ont été blessés et évacués par hélicoptère à Niamey, précise-t-il. Une surveillance aérienne a permis de retrouver les 3 terroristes impliqués dans cet acte lâche, ajoute le ministère. Ils ont été suivis jusqu'à un hameau où ils rejoignaient une vingtaine d'autres complices et une frappe aérienne a alors été menée qui a tué plusieurs d'entre eux et détruit de l'équipement logistique, a-t-il ajouté. Dans la foulée, une autre frappe aérienne a visé un groupe de terroristes dans la zone malienne de Amalaoulaou qui a permis de neutraliser au moins 8 combattants et détruire du matériel, poursuit le bulletin du ministère. Inates est situé dans la région de Tillaberi, devenu un repère de djihadistes sahéliens, dont ceux du groupe État islamique au Grand Sahara et d'Al-Qaïda.
Au Togo, plusieurs partis de l'opposition ont appelé ce jeudi la population à participer massivement aux manifestations prévues demain vendredi et samedi à Lomé, la capitale, pour protester contre la nouvelle constitution malgré l'interdiction des autorités. Le Togo a reprogrammé la tenue des élections législatives au 29 avril après leur report dans le contexte de l'adoption d'une nouvelle constitution. À la fin du mois de mars, les leaders de l'opposition, eux, n'entendent pas boycotter ces élections comme ils l'avaient fait en 2018 pour dénoncer des irrégularités dans le recensement électoral. Aux Comores, une quarantaine de détenus sont en fuite après s'être évadés jeudi d'une prison mal gardée des Comores sous la houlette d'un soldat détenu, ont annoncé les autorités, selon les autorités pénitentiaires du moins, de l'archipel de l'océan Indien. 38 prisonniers se sont échappés tôt dans la matinée d'une prison surpeuplée de la capitale Moroni. Et puis le vice-ministre ukrainien des Affaires étrangères a inauguré aujourd'hui une ambassade ukrainienne en Côte d'Ivoire après la RDC mercredi dans un contexte où l'Ukraine tente de contrer l'influence de la Russie en Afrique. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent la minute écho avec Claire Morin-Gibou.
En Guinée, c'est la dernière ligne droite pour le projet de Simandou, selon le gouvernement. Les autorités guinéennes ont annoncé lundi avoir signé les derniers accords portant sur l'exploitation du gisement de fer Simandou et le développement des infrastructures associées. D'une valeur de 15 milliards de dollars, l'investissement prévu pour ce projet concerne notamment un chemin de fer de plus de 600 km et un port sur l'Atlantique pour l'exportation du minerai. La production devrait être lancée à Simandou d'ici fin 2025. La République de Centrafrique va recevoir de nouveaux investissements de la Banque africaine de développement. La BAD a annoncé une nouvelle initiative, un corridor fluvial Brazzaville-Bangui d'une valeur de 280 millions de dollars qui fournira à la RCA et au Tchad un deuxième accès maritime qui va développer commerce et emploi pour plus de 6 millions de personnes en Afrique centrale. L'aide publique au développement dans le monde a atteint l'an dernier un montant record de près de 224 milliards de dollars en raison principalement de l'aide à l'Ukraine et d'une augmentation de celle aux pays en développement, selon le rapport annuel de l'OCDE publié ce jeudi.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean Rouget, bonsoir à tous.
Début ce jeudi de la 7e édition de la CAN de futsal au Maroc.
Oui, la compétition a lieu du 11 au 21 avril dans les salles Omnisports Moulay Abdallah et Ibn Yassine à Rabat. 8 équipes ont été réparties dans 2 groupes. Le pays hôte, le Maroc, partage la poule A avec l'Angola, la Zambie et le Ghana. Dans la poule B, on retrouve l'Égypte, recordman de la compétition avec 3 titres, la Libye, la Namibie et la Mauritanie, ces 2 dernières équipes découvrant cette CAN de futsal. Le match inaugural va opposer le Maroc à l'Angola à 20h temps universel. Les 2 premiers de chaque groupe se qualifient pour les demi-finales. Les finalistes et l'équipe classée 3e vont représenter l'Afrique à la Coupe du Monde de futsal prévue en Ouzbékistan du 14 septembre au 6 octobre prochain.
La Première Ligue va introduire une technologie de détection du hors-jeu semi-automatique.
C'est ce qu'ont décidé les actionnaires des clubs de première division anglaise. La technologie permettra un placement plus rapide et cohérent de la ligne de hors-jeu virtuelle basée sur le suivi visuel des joueurs et produira des graphiques et des diffusions de haute qualité afin d'améliorer l'expérience des supporters dans le stade et lors des retransmissions, indique un communiqué de la Première Ligue. Ce système devrait réduire d'environ 30 secondes la durée moyenne d'une vérification de hors-jeu par la VAR. Cette technologie du hors-jeu semi-automatisé a été utilisée par la FIFA lors du Mondial 2022 au Qatar. Elle est également utilisée en Ligue des Champions et en Serie A italienne. Cependant, les arbitres devront toujours se prononcer sur des éléments subjectifs tels que la question de savoir si un joueur en position de hors-jeu interfère avec le jeu.
Ici en NBA, Denver repasse en tête à l'Ouest.
Dans le mano à mano qu'il se livre pour la tête de la conférence Ouest, les Nuggets ont pris l'ascendant dans le dernier quart-temps sur les Wolves de Minnesota grâce à un grand Nikola Jokic, 41 points, 11 rebonds et 7 passes décisives. Avec cette victoire 116-107, les champions en titre prennent une belle option pour la première place à l'Ouest à 2 matchs de la fin de la saison régulière. Dans le même temps, Oklahoma City a écrasé San Antonio 127-89. Phoenix a pris sa revanche sur le parquet des Los Angeles Clippers, 124-108. Cette victoire laisse aux Suns, actuellement 7e juste derrière les Pelicans, une chance de se qualifier directement pour les playoffs à 2 journées de la fin. De son côté, Dallas a conforté sa 5e place à l'Ouest en remportant sa 5e victoire consécutive contre le Miami Heat, 111-92. Blessé au mollet lors de la victoire contre les Celtics leader mardi, Gianni Antetokounmpo a manqué la victoire des Milwaukee Bucks, deuxième à l'Est contre Orlando Magic, 117-99.
Page de sport VOA Afrique, signé Yacouba Ouedraogo.
Tous les lundis soirs, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs. Rendez-vous en direct dans Sporama, 19h PM. Pour participer, c'est très simple. Laissez vos commentaires ou numéro de téléphone sur notre page Facebook. Alors, à très vite sur le terrain de VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui, ici VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Mali, les autorités militaires ont annoncé hier suspendre les activités des partis et des associations à caractère politique. Un décret a été pris en conseil de ministres par le colonel Goïta. Ce matin, la haute autorité de la communication a fait suite à cette décision. Tous les médias, qu'il s'agisse de radio, télévision, de journaux écrits ou en ligne, doivent arrêter toute publication des activités des partis et associations politiques. Pour une réaction, Claire Morin-Gibou a joint le directeur de publication de la Voix du Mali, Tiambel Guimbayara.
C'est une surprise, mais c'est une suite logique parce que le communiqué qui interdit aux médias de couvrir les activités des partis politiques émane de la haute autorité de l'audiovisuel. Et ça, c'est en application d'un décret signé par les autorités de la transition.
Est-ce que l'interdiction, la suspension des activités de tout parti politique, même des associations, est décidée hier soir? Est-ce que ça a été une grosse surprise pour vous?
Oui et non en même temps, parce que ça, c'était un peu attendu. C'est la suite logique. Il faut interroger un peu le passé récent. Cette suspension émane de quoi? Ça émane du débat délétère et difficile que les partis politiques ont eu à engager autour du décret fixant la fin de la transition le 26 mars dernier. Ce décret a fait l'objet d'une rencontre de plusieurs partis, une déclaration, et il était même envisagé de continuer de discuter de la question et d'aller même manifester autour de cette activité. Alors, cela va de soi que les autorités de la transition vont juger cet acte comme étant contre-productif ou contre les intérêts qu'ils ont posés par rapport à l'État malien aujourd'hui. Parce qu'ils se projettent de travailler sur un dialogue intermalien. Si les partis politiques se saisissaient de la question pour discuter de la fin de la transition, ça va bien sûr découler, ça va changer l'attention de l'opinion publique sur cet aspect-là. Au-delà de cet aspect, je crois que les partis aussi sont dans leur plein droit de vouloir engager une discussion politique pour éventuellement se retrouver avec la transition pour fixer un calendrier. Je crois que de deux côtés, les deux partis se renvoient la balle, mais puisque les autorités sont investies dans les affaires, aujourd'hui, ils sont appelés à prendre des décisions, on attend le retour des partis.
Alors, ces décisions interviennent alors que les militaires avaient promis de céder d'ici au 26 mars le pouvoir aux élus. Qu'en est-il de la transition?
Là, c'est un couteau à double tranchant et une question difficile à répondre parce que les militaires certainement se disent, comme ils avancent comme argument, que ce décret a été pris sous injonction dans le cadre de la discussion avec la CEDEAO. Mais tout de même, c'est un décret malien qui a été pris pour signer la fin de la transition. Quoi qu'il en vienne, il est important et donc très très diligent de discuter de la durée de cette transition et ensemble et de dialoguer autour de ça. J'espère que le dialogue intermalien se pensera sur cette question-là et va donner un deadline par rapport à cette transition.
C'était Tiambel Guimbayara, directeur de publication du journal La Voix du Mali, et il était joint à Paris.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
Au Burkina Faso, la plaine rizicole de la vallée du Kou, près de Bobo-Dioulasso, constitue depuis des années un levier important pour la sécurité alimentaire. Venue de divers horizons du Burkina pour fuir l'insécurité, de nombreuses personnes déplacées y ont trouvé refuge. Aujourd'hui, ces périmètres aménagés pour la culture du riz sont menacés de disparition. Reportage à Bobo-Dioulasso de Alidou Ouedraogo.
Située dans la commune rurale de Bama, à 25 km de Bobo-Dioulasso, la plaine aménagée de la vallée du Kou est un pôle de croissance agricole qui date de la fin des années 60. Ici, de nombreuses personnes déplacées y gagnent dignement leur vie à travers diverses activités. Aminata Niampa a quitté le Lorum au nord il y a 3 ans. Refusant de mendier, elle s'est retrouvée ici à la vallée du Kou.
Nous aidons à cultiver, désherber et étuver les riz et on nous paye. À la fin, on nous donne aussi du riz. Nous gagnons mieux notre vie.
Madeleine Diré travaille dans la plaine. Elle a aussi une parcelle où elle pratique l'agriculture irriguée.
Je cultive la patate, le gombo et le riz. J'ai 5 enfants et tout le monde vit de ça.
Ces personnes déplacées sont un pilier dans la culture du riz dans la vallée, reconnaît Zakaria Ouedraogo, le secrétaire général de l'Union des coopératives rizicoles de Bama.
Nous sommes contents parce que si ces travailleurs n'étaient pas là, les coûts de nos prestations allaient être très élevés. Mais leur présence nous aide beaucoup dans la plaine car ils font beaucoup de travaux. Même en période de saison sèche, dans la culture de la patate, ils nous aident.
Après près de 6 décennies d'exploitation, de nombreux problèmes compromettent l'avenir de la plaine. En plus des terres qui s'appauvrissent, il y a l'occupation de la source d'eau qui arrose la plaine par la Nationale de l'eau. Une situation que dénoncent les riverains, nous dit Zakaria Ouedraogo.
De notre source d'approvisionnement en eau jusqu'à la plaine, cela vaut 40 km. Dans cette source sont installées également les stations de pompage de l'ONEA qui ravitaillent la ville de Bobo.
Le docteur Delphine Ouattara, chef de programme riz et riziculture du Burkina, liste les autres difficultés pour la vallée du Kou.
On assiste à des pratiques aussi et de la part des producteurs qui ne sont pas tolérantes dans la plaine, et notamment et d'autres cultures ou bien même la fabrication des briques au sein de la plaine. Toutes ces pratiques-là appauvrissent la plaine. Mais malgré tout, nous sommes en train de mettre les bouchées doubles pour que cette plaine-là puisse être revitalisée.
Avec une production de 1200 tonnes par an, la plaine de la vallée du Kou génère 1382 emplois directs. Alidou Ouedraogo, de retour de la vallée du Kou pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
160 organisations ont sous la houlette de African Communities Together et des leaders de la communauté congolaise aux États-Unis demandé aux autorités américaines un statut temporaire de protection pour les migrants illégaux de la République démocratique du Congo. Ce statut, TPS en abrégé, devrait empêcher que les ressortissants de la RDC soient rapatriés de force, considérant la guerre et les calamités dans leur pays d'origine. Eddie Sangwa joint ici à Washington le président de la communauté congolaise aux États-Unis, Claude Kamana.
Nous sommes en train de demander à l'administration de Biden qu'on nous octroie ce programme qu'on appelle un TPS. Il s'agit d'un statut qu'on octroie aux ressortissants des pays qui ont des problèmes pour rentrer chez eux, comme chez nous. Il y a la guerre qui nous connaissons depuis presque une trentaine d'années dans l'est de notre pays. C'est un programme qui donne accès aux ressortissants des pays comme le nôtre, accès pour qu'ils ne soient pas déportés. Il y a tellement trop de bénéfices que si on vous donne ces statuts-là. Nous cherchons ces statuts-là des TPS, Temporary Protective Status.
Mais c'est aussi accompagné d'une autre demande de l'assistance pour les étudiants, je crois.
Absolument. La plupart de nos étudiants, ils ont difficilement à trouver du travail. Une fois qu'on octroie ces statuts-là, ils auront accès à appliquer pour le Work Permit. La plupart de nos étudiants ici, ils ont le visa de F1 Student. Alors, si nous arrivons à avoir ces statuts, ils auront facilement à appliquer pour le Work Permit.
Les statuts de protection temporaire que vous demandez, ça sera pour 18 mois, si je comprends bien. Et après les 18 mois, qu'est-ce qui va arriver?
Après les 18 mois, il y a toujours moyen de renouveler ces statuts-là. Donc, on vous donne une durée de 18 mois. Alors, après ces 18 mois, on va réappliquer encore pour voir si nous sommes toujours... On peut toujours être qualifié. Donc, c'est un statut, ça vous donne pas accès pour obtenir la green card, mais après 18 mois, on va accéder à renouveler.
Mais qui sont concernés par ces statuts spéciaux de protection que vous demandez?
C'est tout le Congolais ici vivant aux États-Unis qui ont des problèmes d'immigration. Donc,
et tous les États?
Tous les États. C'est pas seulement ici dans le DMV, mais c'est partout dans toute l'étendue, dans tous les États ici à aux États-Unis.
Combien de Congolais sont concernés qui ne sont pas légaux, qui n'ont pas de documents ici aux États-Unis?
En tout cas, nous sommes très, 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 très nombreux de Congolais en bénéficieront de ces statuts. Parce que, bon.
La migration est un des sujets importants maintenant, pendant qu'on est en pré-campagne électorale. On sait qu'il y a un des candidats qui menace d'expulser ces migrants qui sont illégaux. Est-ce que c'est pour cela que vous faites cette demande?
Non, c'est pas pour cela. Hein. Nous avions commencé cette campagne depuis très longtemps. C'est pas seulement pour aujourd'hui.
Claude Kamana, président de la communauté congolaise, ici aux États-Unis.
Restez branchés sur VOA Afrique, à Goma, sur 96.2 FM.
Le port de Baltimore, autrefois en pleine effervescence, est aujourd'hui silencieux suite à l'effondrement récent du pont Francis Scott Key et la fermeture d'une grande partie de ce port dans le Maryland, ici aux États-Unis, avec des conséquences considérables sur le transport maritime international. Sims Loumami et Nani Talani se sont entretenus avec des professionnels du secteur qui ont révélé la sombre réalité à laquelle sont maintenant confrontées les entreprises. Ce reportage explore le coût humain de la crise, des pertes de revenus et des cauchemars logistiques dans le transport maritime à travers la région.
Debout au milieu du silence qui recouvre désormais ce qui était autrefois le port animé de Baltimore, l'impact de l'effondrement du pont est palpable. Pour les exportateurs qui ont longtemps compté sur cette artère pour transporter des marchandises à travers les continents, notamment en Afrique, la fermeture du port est un coup dur pour leur efficacité opérationnelle et leur rentabilité.
Une fois que l'accident s'est produit, cela a été presque immédiat. Le lendemain, les chargements ont été annulés parce qu'ils ne pouvaient accéder au port et à tous les services qu'ils avaient l'intention de fournir. Beaucoup d'entreprises ont annulé et nous ont appelé pour nous dire qu'ils ne pouvaient pas venir chercher le chargement. Ils ne pouvaient pas faire cela. Ils ne pouvaient pas entrer. À partir de là, nous avons commencé à voir nos revenus hebdomadaires diminuer. Mais les factures restent les mêmes. Vous savez ce que c'est? Parce qu'on peut simplement licencier des gens. Avant, j'avais environ 7 personnes qui travaillaient ici. Mais comme je n'ai pas reçu beaucoup d'appels, il n'y a pas de travail spécifique ou de travail à faire. En ce moment, je n'ai que 2 personnes sur le terrain avec moi.
Des entreprises locales comme TTMC, Tractor Trailer Maintenance Corps de Dzarni Pukuma ont dû immobiliser des équipements et réduire la main-d'œuvre afin de contrer l'impact des perturbations portuaires sur leurs activités quotidiennes.
En général, le lundi matin, tout le matériel est sur la route. Vous pouvez donc constater que 25 à 40% du matériel reste sur le chantier, simplement parce que les travaux n'ont pas encore été effectués.
L'effondrement des opérations portuaires a aussi entraîné une augmentation des défis logistiques, obligeant les entreprises à chercher d'autres itinéraires, mais à un coût plus élevé.
Après l'effondrement, la situation est devenue très, très mauvaise. Nous n'avons pu faire aucun chargement de camions remorques. Vous savez, tout le monde se disait qu'il n'y avait rien à faire. Nous devons aller jusque New Jersey et nous dépensons beaucoup d'argent pour les péages, les diesels et tout le reste. Si le gouvernement peut nous aider d'une manière ou d'une autre, nous verrons peut-être un soulagement.
L'incertitude et la charge financière causée par les perturbations portuaires force les entreprises et les compagnies maritimes à chercher des solutions alternatives pour reprendre les opérations et restaurer encore la confiance dans le transport maritime international.
Ces dernières semaines, nous ne pouvons rien faire. La compagnie maritime ne fait que payer des frais inutiles pour récupérer notre cargaison dans les ports, ce qui nous coûte de l'argent.
Alors que le port de Baltimore s'efforce de surmonter les difficultés et de reprendre ses activités à plein régime, cela menace le gagne-pain de nombreuses personnes qui dépendent de la circulation fluide des biens et services. L'accent est désormais mis non seulement sur la reconstruction de ce qui a été perdu, mais aussi sur le renforcement de ce port de Baltimore contre les adversités futures.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Mion à ce micro. À la mise en onde, Georges Léonard Sagnot. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.